cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Bonjour Paulo Frézou.
Bonjour.
Alors vous publiez un nouvel album, un double album on pourrait même presque dire, qui s'intitule Songlines Night and Blue, en deux parties, et qui a la particularité d'être un album qui sort sur un label qui s'appelle, je ne sais pas si je vais bien dire, c'est Tuk Music, faut dire, ou Tuk
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 Tuk et Music. Tuk Music, c'est votre label.
Oui, en fait,
vous avez créé ce label.
Oui, c'est le premier titre de ma label, donc j'ai pensé bien d'ouvrir cette nouvelle... expérience avec un disque avec mon quintet, parce que mon quintet italien, c'est un groupe qui existe depuis 26 ans maintenant, donc je suis né avec eux. Et voilà, donc
c'est
ça,
pas c'est un testament quand même.
Ah non, non, pas du tout. Mais c'est très sympa en fait, ouais. Parce que c'est le groupe qui m'accompagne encore, même si aujourd'hui j'ai mille choses ouais. À droite et à gauche, mais depuis 26 ans. Et voilà, mais la label, en fait, l'idée de fonder la label, c'est pas pour mes disques. Aussi, bon, quelquefois je peux faire des disques, mais c'est surtout pour les jeunes musiciennes italiennes, même européennes, bon, pour développer un peu la musique d'une façon différente, et donc pour découvrir de nouveaux talents, de projets nouveaux, etc., etc. Donc c'est ça l'idée à l'origine de Tuk Music.
C'est quelque chose que vous aviez créé un label, même peut-être pas comme celui-ci, mais même, ne serait-ce que l'idée d'un label, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis très très longtemps.
Ah oui, oui, absolument oui, parce qu'en fait moi je dirige le festival en Sardaigne qui s'appelle Time in Jazz dans mon village natal depuis 23 ans. Donc on a commencé, c'était le 1988. Aujourd'hui je suis le directeur du festival de Bergame, qui ça se passe dans le magnifique théâtre Donizetti. Et je dirige aussi un stage en Sardaigne aussi, dans la ville de Nuoro, depuis 22 ans. Donc voilà, j'ai la chance d'être toujours en contact avec beaucoup de musiciennes, beaucoup de jeunes musiciens qui viennent, des élèves, et tout le monde m'envoie des choses, m'envoie des CD, des mails et tout ça. Et je découvre chaque jour du matériel incroyable. Il y a un niveau de musiciennes extraordinaire. Quand j'ai commencé à jouer du jazz, ce n'était pas comme ça. Et alors ça m'a donné envie de monter un label pour documenter une petite partie de toute cette richesse incroyable qui est aujourd'hui dans le jazz italien et dans le jazz européen. Bon voilà, donc pour moi, la label... c'est une nouvelle capitule créative de ma vie, quoi. C'est comme écrire une chanson, comme composer un nouveau morceau. C'est pas une chose pour l'argent, pour le business. C'est comme les festivals, en fait. Les festivals aussi, il y a toujours une relation créative avec ce que je fais. Les festivals, quand je compose les programmes de mon festival, il y a un thème chaque année, c'est comme un pentagramme vide dans le piano où il faut mettre des petites notes. Bon, le festival, c'est une nouvelle symphonie. Bon, il faut choisir les artistes, il faut choisir les projets, etc., etc. La label, c'est la naturelle prosécution de ce travail.
Voilà. C'est courageux en 2010 de monter un label, parce qu'on parle, et c'est une réalité, mais de crise du disque. On connaît un peu l'état, la situation actuelle. Est-ce que c'est un moyen justement de pallier, de remplacer un peu les majors, les maisons de disques qui sont de plus en plus frileuses, notamment pour signer des jeunes artistes?
Je ne sais pas. Et je pense que d'abord, il faut que l'artiste est courageux, parce que c'est ça qui nous amène chaque jour dans toutes les scènes, voyager, etc. D'un autre côté, je pense que la crise du marché aujourd'hui, C'est une crise qu'on ne comprend pas vraiment, parce qu'on dit que la crise s'est arrivée parce qu'il y a les downloads de la musique. Et que des autres, ils disent que c'est la crise économique. Il y a des autres qui disent que c'est la crise du public. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tous les concerts qu'ils ont fait dans le monde, ils sont bourrés de public cet été. Dans tous les concerts, je jouais presque chaque jour à partir du 25 juin jusqu'à la première semaine de septembre. Tous les concerts, il y avait beaucoup de monde, le public il est ravi. Et notre festival en Sardaigne, et donc la 23e édition, on n'a jamais eu tel public nombreux comme cette année.
Mais est-ce que justement, ça n'a pas. Parce que effectivement, ça a plus l'air d'être une crise du support, comme on dit, du CD, mais la musique, on n'a jamais effectivement autant parlé de musique, finalement,
voilà,
peut-être.
C'est ça.
Mais est-ce que cette crise du disque, elle a un impact sur la façon dont les gens écoutent la musique, dont
peut-être.
Les gens l'achètent, la consomment pour utiliser
voilà,
un.
Voilà, moi je pense que c'est le système qui est compliqué, non ? Pas la musique, pas les disques. Donc je me demande s'il n'y a pas une autre voie, s'il n'y a pas une autre moyenne, s'il y a pas encore des portes qui sont restées un peu fermées, non, qui on peut essayer d'ouvrir. Donc je pense que l'idée déjà que c'est un artiste qui monte un label, pas pour lui-même, mais pour les autres, c'est déjà intéressant. Le label, mon disque, il est sorti au mois de juin en Italie et en France le 9 septembre, mais je sens qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt, j'espère, pour la musique d'abord, mais à part ça, j'espère qu'il y a de la curiosité sur l'idée d'origine, l'idée que c'est un artiste qui est bien connu, qui monte un label pour promouvoir, pour promotionner des autres. Et je pense que les idées, en tout cas, sont très importantes. Donc j'espère que l'idée de la Touk Music, ça sera une idée qui nous amène loin.
Alors justement, la musique en question, donc il y a, comme on disait, il y a deux parties. Une première partie composée avec les compositions des membres du quintet, et une deuxième partie avec des œuvres d'autres musiciens. Ça va de Wayne Shorter à Miles, enfin j'en passe, et des meilleurs. Ce sont des enregistrements, je crois, qui datent d'il y a deux ans à peu près, c'est ça ?
Peut-être plus, je pense en
trois ans.
Parce qu'en fait, on avait une semaine libre, et on a dit qu'est-ce qu'on fait ? On s'ennuie un peu, on va au studio et on enregistre des choses. Qu'est-ce qu'on fait ? On amène des compositions originales, et peut-être après on fait un disque dédié à des standards, même pas trop connus, mais des standards où dans les titres, il y a les mots night ou les mots blue. Donc il y a blue and green. En fait, ce sont tous des morceaux où on travaille plus que sur l'idée musicale. D'abord, c'est une idée de son du titre qui nous amène vers la musique, bien sûr. Et le disque original, en fait, il y a des morceaux qui sont composés par tous les musiciens du quintet, parce qu'en fait, depuis toujours, cette quintet, il était très démocratique. En fait, dans tout notre disque, on a fait pas mal de disques dans notre histoire, peut-être 16, 18, je ne sais pas combien. Et en fait, dans tous les disques, il y a une belle collaboration entre nous, donc chacun il amène des choses, il amène des compositions et tout ça, tout ça.
Est-ce que ça, c'est justement cette formation-là, pour vous, elle n'est pas vitale, au sens où c'est un peu pas le home sweet home, mais je ne sais pas, je pense à certains artistes, certains musiciens, notamment en jazz par exemple, si on prend Keith Jarrett, qui lui, il n'a pas 15 options, c'est genre soit il joue seul, enfin quoi, je ne parle pas du dernier album avec Charlie Hayden, mais il a son trio, qu'il travaille depuis maintenant pas mal de temps. Après, il y a ses concerts solo, etc. Donc, est-ce que pour vous, c'est important d'avoir une relation musicale avec les mêmes personnes sur, là, on parle de 20, 25, 26 ans. 26 ans. Est-ce que c'est vraiment un endroit particulier pour vous, pour votre musique à vous ?
Absolument, oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas monter sur scène si derrière, ça ne se passe pas quelque chose. Ça veut dire, s'il n'y a pas une relation humaine avant que musicale, la musique, ça peut être très bien, mais il n'y a aucun motivation pour passer du temps ensemble sur une scène s'il n'y a pas quelque chose qui passe derrière. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est très difficile de garder la même formation pour beaucoup des années. car la difficulté, c'est de vivre, d'essayer de vivre ensemble dans une façon très simple, quoi. Donc, normalement, quand les formations se divisent, c'est qu'il y a des problèmes,
oui.
Des rapports.
Des rapports ou d'égo.
Voilà, d'égo. Donc moi, j'ai eu la chance, quand j'étais vraiment au début de ma carrière, de rencontrer des musiciens extraordinaires, donc Roberto Cipelli, Attilio Zanchi, Tino Tracana et Tori Chiravanti. On était beaucoup plus jeunes, parce que moi j'avais presque 20 ans. Mais aujourd'hui, la chose qui est incroyable, qui on se retrouve après 26 ans, encore avec les mêmes musiciens, donc il n'y a pas un qui est changé.
Mais même si effectivement il y a toujours ce besoin de rencontre humaine avant musicale, ce quintet, il y a une particularité quand même pour vous servir.
Oui,
j'imagine
oui.
Quand là vous vous êtes retrouvés, bon ça date d'il y a 3 ans, mais il n'y a même pas besoin de mots, c'est-à-dire que vous,
vous
commencez tout de suite à parler musicalement.
Oui, mais même quand on monte sur scène, on décide jamais qu'est-ce qu'il faut faire, avec quel morceau on va démarrer. Il n'y a jamais une liste, il n'y a jamais un programme. On se connaît tellement bien qu'on monte sur scène et moi j'ai commencé à jouer des choses et tout le monde il est là, quoi. Donc ça c'est une chose magnifique quand il y a un groupe qui existe depuis toujours. Bon voilà, donc pour faire de la musique, pour avoir une grande liberté comme ça dans la musique, il faut travailler ensemble pour beaucoup de temps. Ça arrive pas comme ça. Et donc à la fin il y a un son qui est très précise. C'est le son de 5 personnalités qui essaient de mélanger les choses. Et c'est ça qui est bien. Quand il y a un son qui nous représente bien, on peut jouer tout. On peut jouer du rock, du blues, du jazz, de la musique du monde. C'est pas important la musique qu'on joue, mais c'est important comment on joue la musique. Et ça peut arriver après beaucoup des années. C'est pour ça que j'essaie de travailler avec les mêmes musiciens pour beaucoup de temps. Aussi maintenant les quartets, Devil Quartet avec Bebo Ferra, Paulino Dalla Porta, ça existe depuis 10 ans plus ou moins. Avant le Trio Paf avec Antonello Salis, et c'est un vieux groupe aussi. Donc toutes les formations à moi sont des formations qui existent depuis 5, 6, 10, 15 ans. Parce que c'est à travers les temps qu'on trouve un dialogue différent, non ?
Est-ce que c'est une quête, c'est, en fait, parce que vous êtes un peu une sorte de glouton de musique, c'est-à-dire que vous avez fait un nombre d'albums incroyables, vous avez participé à énormément de choses, vous jouez avec des musiciens très très divers, et pas seulement de l'univers du jazz, comme on sait, vous travaillez avec également avec des chorégraphes, des cinéastes, metteurs en scène de théâtre, etc. Est-ce que, évidemment, vous avez parlé de l'importance des rencontres humaines avant, évidemment, artistiques. On a l'impression que vous n'êtes jamais en fait fatigué ou rassasié, qu'il y a une sorte de faim, manger.
Oui, non, ben
faim permanente d'échange et de voir ailleurs, d'avoir une vision à 360 degrés. Et
c'est ça qui m'intéresse dans la musique, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Si moi je tourne avec un projet pour une semaine, je suis déjà fatigué. L'idée de monter sur scène chaque jour pour faire la même chose avec le même visage. Je suis moins fatigué si je joue aujourd'hui à Istanbul avec les trios, les jours après à Paris avec mon quartet, les jours après à Berlin avec mon quintet. Parce que je connais déjà cette musique, je me sens à la maison quand même. Et l'idée d'échanger chaque jour tout, ça me donne beaucoup d'énergie. Il y a la curiosité de découvrir des choses. Donc, bon, il y a une fidélité dans les projets musicaux. Ça veut dire les quartettes Devil aujourd'hui. Avant, c'était les quartettes Angel avec Guyen Lee, etc., etc. Avant encore, c'était les Palatino avec Aldo Romano, etc. Et aujourd'hui, j'ai un projet avec les cordes, les duos avec Hurricane, les trios, les quartettes, les duos, une infinité de choses. Mais après, il y a les collaborations avec des acteurs, avec des actrices, les choses avec les langues des arts, donc les arts visuels, etc., etc. Ça, sont des moments un peu comme ça qui arrivent et qui partent. Par contre, tout ce qui est la musique, donc tous ceux qui ont fait sur scène, il y a de la fidélité derrière. Donc c'est des projets qui existent depuis beaucoup d'années, parce que pour moi c'est important. Ça veut dire, ça suffit pas de monter un projet avec des musiciens extraordinaires. Bon, parfois la musique c'est pas extraordinaire du tout. Ça devient extraordinaire quand on travaille ensemble et on essaie de partager vraiment tout. Et partager les choses, ce n'est pas tout à fait facile. C'est très difficile parce qu'il faut mettre derrière un peu l'ego, la personnalité. Il faut oublier tout ce qui se passe dans la journée parce que quand on monte sur scène, il faut penser à la musique.
C'est facile ou c'est un exercice difficile justement d'arriver à, dans ce flot de projets, de tout ce que vous avez dit, de oui, c'est un concert à tel jour, à tel, dans telle ville, etc. Et tout à coup, hop, on switch et on
moi,
est juste en relation avec les musiciens.
Mais pour moi, c'est très facile. Mais c'est
ça
facile.
L'a toujours été ou
plus ou moins, oui. Mais c'est facile quand on trouve des musiciens faciles. Quelquefois, ça devient difficile. Mais quand ça devient difficile, on quitte très vite le projet parce que c'est comme un couple à la maison. Ouais. Si ça ne marche pas, si on commence trop à parler de musique. Alors ça signifie que la musique ça va pas. Et si ça va pas, il y a toujours une motivation précise. Bon, alors si ça va pas, il faut passer le temps à parler et pas à jouer. Alors c'est mieux de quitter le projet et de passer à autre chose. C'est ça. Je pense que la chose qu'il faut faire toujours, c'est de choisir les projets où on sente qui on peut partager les choses et où on sente qui on peut développer les choses. Voilà. Si ça n'arrive pas, à la fin, on n'est pas obligé de forcer, forcer tout ça. Donc, choisir la route plus simple.
Est-ce que vous êtes musicien, vous êtes aussi mélomane, vous écoutez beaucoup de sons, beaucoup de choses, vous avez écouté, vous le faites toujours. Est-ce que c'est facile parfois de presque de sortir, j'allais dire, de son enveloppe et de regarder un peu ce qu'on a fait, sans être nostalgique, mais... est-ce que parfois vous regardez uniquement vers l'avant ou est-ce que parfois vous regardez rétrospectivement en vous disant voilà ce que j'ai fait, ce que j'estime avoir réussi plus que d'autres, les rencontres qui ceci cela, et même votre musique, votre approche de la musique et votre style, etc. Est-ce que vous est-ce qu'on est son meilleur juge, est-ce que c'est facile aussi?
On n'est jamais les meilleurs juges, mais parfois j'écoute des choses, pas souvent, mais il y a des fois où j'écoute les choses de vieux choses et normalement j'aime pas du tout. Je suis pas content. L'autre jour, j'avais un voyage en voiture. J'aime pas beaucoup écouter la musique, ni avec les casques, ni avec, dans la voiture. J'aime beaucoup écouter la musique à la maison, comme ça. Donc, et l'autre jour, j'avais un voyage tout seul avec la voiture. J'aime pas beaucoup conduire. Et donc, j'ai pris de la maison 3-4 disques que j'ai trouvé là-bas. C'est des disques qui étaient vraiment. J'ai pris des vieux disques à moi et j'ai commencé à écouter les choses. Je me suis dit. Merde, c'est quoi ça? Donc voilà. Mais en fait, c'est bizarre parce que j'avais pris 5 disques. Il y avait un vieux disque qui s'appelle Ballad. Ça fait beaucoup d'années. Il y avait un deuxième qui était toujours un disque de quintette. Et il y avait un troisième disque qui était un disque de pop qui avait produit pour Ornella Vanoni, qui est une chanteuse très connue à l'Italie. Et par contre, celui-là, j'ai aimé celui-là. Donc évidemment, ce n'est pas a priori qui on est très critique avec notre travail. Je pense qu'avec le temps, on a la possibilité de voir les choses avec une distance qui peut nous permettre de critiquer vraiment avec une maturité différente. Donc si aujourd'hui j'écoute des choses que j'ai enregistrées ça fait 15 ans et ça ne me plaît pas, c'est pas bien. Par contre, s'il y a un disque qui
mais c'est quoi ? C'est comme regarder une vieille photo de soi en disant oh, voilà. J'avais cette tête-là, voilà. Ou j'étais habillé comme ça, ou j'avais cette coupe de cheveux.
Non, j'écoute, je connais tout. Je connais tout de ce disque. Je connais chaque note, d'accord. Même si je ne l'écoute pas depuis 5 ans, mais je me rappelle chaque chose, chaque nuance de la note, chaque petit changement d'inflexion sonore, des tonalités, tout ça, tout ça. Donc peut-être je regarde les choses dans une manière tellement subtil, tellement à fond, que je suis vraiment critique avec moi-même, mais c'est juste comme ça. Mais parfois, il y a des choses que j'écoute et je dis « Ah, ça c'est bien, je suis content de ce que j'ai joué ». Donc évidemment, ce n'est pas le temps qui rend tout mauvais, mais il y a des choses qui ont été mauvaises quand même, il y a des choses qui ont été bien. Donc, mais l'idée aujourd'hui de réécouter, ça fait du bien pour comprendre aussi où on peut y aller. Bon, ça c'est sûr. Après, on sait bien qu'il y a un disque qui est bien réussi, il y a un disque qui on aime pas beaucoup. À l'Italie, on dit non toutes les ciambelle escono col buco. C'est pas tous les gâteaux sont avec les trous dedans. Donc c'est normal. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses moins bien. Et j'essaie en tout cas de regarder plutôt vers le futur. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je me rappelle Miles Davis quand ils sont demandé lui de refaire Paul Gambès. Il a dit pourquoi il faut se tourner derrière pour regarder quelque chose qui était là et qui était bien. Et c'est là, quoi. C'est, il faut plutôt essayer de « miles ahead », d'aller toujours vers quelque chose qui est plutôt avant nous.
On vous a souvent un peu mis une sorte d'étiquette dans le dos en parlant de votre style. On a toujours cité Miles Davis, Chet Baker. Est-ce que c'est un peu fatigant toujours alors que votre musique, votre approche est plus large, enfin est très large et va ailleurs, même si évidemment ce sont toujours deux noms assez immenses. Mais est-ce que c'est pas fatigant à la fin qu'on dise, qu'on cite un peu ces deux?
Oh non, pas du tout, parce qu'en tout cas, celui-là qui écoute une chose et qui essaie de trouver une chose derrière ce qu'il a écouté, c'est plutôt limitant pour lui. Moi, je pense que je regrette pas d'avoir énormément écouté Miles Davis et Chet Baker. Je regrette pas, quand je joue un certain type de musique, d'essayer de jouer l'idée de Miles Davis et Chet Baker, parce que c'est bien de jouer de la belle musique plutôt que de la musique mauvaise. Et par contre, dans ma musique, il y a énormément de choses qui sont complètement loin de Miles Davis et de Chet Baker. Donc, à ceux qui écoutent, trouver la correcte relation entre les choses. En fait, moi, j'aime tout. J'aime le jazz traditionnel, j'aime expérimenter avec des choses nouvelles, je travaille avec l'électronique. Et j'ai beaucoup des expériences avec des musiciens du Burkina Faso, des musiciens vietnamiens. J'ai monté un film à l'Afrique du Sud, j'aime beaucoup l'Afrique. Bon, les musiciens de jazz, ils ne peuvent pas être prisonniers dans une petite... dedans quelque chose, quoi. Donc, on joue qu'est-ce qu'on aime. Et on ne peut pas aimer que Miles Davis, Chet Baker, ou Charlie Parker, ou John Coltrane, non? Déjà, l'école de Miles, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Miles Davis, il a essayé de faire tout. Mais je me rappelle quand il était revenu après la maladie, qu'il jouait du rock... violent, les critiques, ils disaient « Ah oui, ça c'est pas du jazz, ça c'est de la merde. » C'est pas vrai du tout, c'était de la musique. Miles Davis, il jouait exactement comme 30 ans avant. Mais sauf qu'à côté de ces sons, il y avait quelque chose. Et alors, il faut pas simplement regarder la photo. Quand on va au musée, on regarde un Picasso, on dit « Ah, ça c'est un Picasso, c'est un Matisse. » Non, il faut s'arrêter un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je pense qu'il dedans la musique, il y a énormément de choses différentes. Et c'est ça qui nous intéresse. Bon, c'est ça qui intéresse à moi. Après, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui n'arrive pas à s'arrêter pour voir ce qu'il y a dedans, tant pis pour lui.
Mais est-ce que c'est aussi une manière de définir ce que c'est que le jazz aujourd'hui? C'est-à-dire cette volonté, ce besoin naturel, même vous dites, de jouer avec des musiciens du Burkina Faso ou de travailler avec des chorégraphes, etc. Parce qu'il y a toujours un peu, alors évidemment c'est peut-être des débats un peu de pacotille ou factice, de savoir est-ce que le jazz existe toujours en 2010, qu'est-ce que c'est une musique de répertoire ou pas. Mais comme vous dites, on posait peut-être aussi la question, même à l'époque de Miles, quand Miles tout à coup faisait Agartha, on disait mais est-ce que c'est du jazz ou pas du jazz. Donc c'était... Et vous, vous considérez comme un musicien de jazz, par exemple, ou est-ce que...
Oui, bien sûr. Moi, je suis un musicien de jazz, mais le mot, il est un peu petit, je pense, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le jazz aujourd'hui? Le jazz, il est né au début du siècle passé, et c'est un siècle qui avec une évolution extraordinaire. Bon, quand on pense à les ordinateurs, on pense à tout ce qu'on utilise aujourd'hui, qui n'existait pas, qui était simplement dans les rêves de Verne ou je ne sais pas qui. Donc le jazz, c'est la même histoire. C'est une musique qui s'est évoluée dans un siècle où tout était très vite. Donc, c'est quoi le jazz aujourd'hui? C'est un mot de quatre choses, mais c'est trop petit pour définir tout ce qui est passé dans cette période. Est-ce que le jazz, c'est la musique de Louis Armstrong? Oui. C'est absolument du jazz magnifique. Mais est-ce que la musique d'Ornette Coleman, c'était du jazz? Et alors, c'est quoi le jazz? C'est le swing? Ok, dans la musique de Louis Armstrong, il y avait beaucoup de swing, mais dans le manifeste du free jazz, le disque d'Ornette Coleman, il y avait même pas un beat de swing, il y avait deux quartettes qui jouaient en même temps. Et il n'y avait pas un batteur qui a joué trois notes avec du swing. Alors c'est quoi le jazz? Les vieux, ceux qui pensent que le jazz il est mort dans les années 60, les années 50, je sais pas, 30, 40, 25, Et ils pensent sûrement que le jazz, c'est le swing. Mais alors, aujourd'hui, c'est quoi le jazz? C'est Pat Metheny, c'est du jazz? Je pense oui. Keith Jarrett, c'est du jazz? Oui. Et toute l'école new-yorkaise de Steve Coleman, John Zorn, il fait du jazz? Oui, je pense. Mais est-ce qu'on aimerait bien écouter John Zorn qui refait la photocopie de Charlie Parker? C'est ridicule. Le jazz aujourd'hui, c'est une musique qui vient du passé, où chacun il essaie de raconter. On est très attaché à l'histoire du jazz, et donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Miles Davis, Chet Baker, ou Clifford Brown, ou Lee Morgan, ou Booker Little, etc., etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas jouer comme Miles Davis. C'est inutile. Donc il faut qu'on connaisse bien l'histoire, donc il faut qu'il y ait des racines très précise, mais en même temps, il faut qu'on se pose la question de ce qu'on peut donner, nous, à l'histoire de cette musique. Alors bon, le jazz, c'est... On parle du répertoire. Est-ce que le jazz, c'est la musique de Cole Porter ou de George Gershwin ou de Harry Mancini? C'est Broadway? C'est la musique de film? C'est la musique de film pour enfants? Oui, ça, c'était le jazz des années 40, des années 50. Mais aujourd'hui, le jazz, ça peut être... la musique sarde, ou la musique de Naples, ou l'opéra. Ou... Alors, bon, le jazz, c'est une musique qui à travers le monde, aujourd'hui, et qui essaie d'être filtrée avec ce qu'il y en a à côté. Alors, si moi, je viens de l'Italie, je ne peux pas jouer comme un noir américain dans les années 50. C'est un autre moment, c'est une autre histoire. La société, c'était différente, la situation politique. Le jazz, c'est une musique actuelle dans le vrai sens du terme. Et donc, tant que ça, elle a besoin de se nourrir avec ce qu'il y en a à côté. Parfois, des choses très simples. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, peut-être, il faut changer les mots. Qu'est-ce que c'est le jazz aujourd'hui? Est-ce que c'est de la musique contemporaine? Mais qu'est-ce que c'est la musique contemporaine? C'est la musique de John Cage ou de Berio? Voilà, je pense qu'aujourd'hui on a l'habitude à définir de la musique d'aujourd'hui avec des mots. Ce sont des mots qui passent très vite parfois. C'est un an et demi, deux ans. Mais le jazz, comme la musique contemporaine, comme la musique classique, comme le rock, sont des musiques qui sont restées pour beaucoup, beaucoup de temps, pour beaucoup d'années. Donc, je pense que l'erreur, c'est simplement d'essayer de définir quelque chose qui est difficile à toucher. Voilà. Mais on a besoin de le faire. Parfois, on a besoin de dire, on a besoin de raconter, on a besoin d'expliquer. Donc, je me pose aucune question par rapport à la musique. Même pas, je me pose des questions par rapport à mon public. Parce que c'est vrai que parfois, je joue du jazz classique, comme dans les disques qui sont sortis maintenant. Et les jours après, je fais un concert complètement électrique avec les quartettes. Ou les jours après encore, je fais de la musique pour le théâtre. J'imagine que le public qui vient m'écouter, parfois, il peut rester un peu étonné de tout ça. Mais quand on ne joue pas, on joue pour le public, mais comme on ne se pose pas des questions commerciales par rapport à la musique qu'on fait, en fait, je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on aime sans se poser des questions par rapport à l'état de santé du jazz.
quand vous travaillez avec des non-musiciens, que ce soit des chorégraphes ou des cinéastes, ou pour le théâtre, votre approche de la musique est différente. C'est-à-dire le fait d'avoir un support visuel.
C'est très différent. Oui.
En même temps, est-ce que vous visualisez votre musique quand elle n'est pas, justement? Est-ce que, j'imagine que le cinéma, la peinture, la sculpture, les arts vous influencent inévitablement. Donc, les choses sont différentes. Est-ce que c'est aussi important pour vous, justement, ces travaux avec des non-musiciens?
Oui, surtout les travaux pour le cinéma. Parce qu'en fait, les travaux pour le cinéma, c'est très compliqué parce que la dynamique compositive, ça change complètement. Bon, on peut écrire un disque en pensant à un musicien et c'est tout. Bon, on a des idées, on a un bouquin dans la tête, on compose des choses, n'importe quel type de choses. Et après, on sait bien qu'on peut donner ça dans les mains de quelqu'un qui joue et les résultats, ça sera différent. Bon, voilà, c'est tout. Par contre, pour le cinéma, il faut travailler sur une histoire, un personnage, une photographie, quelque chose qui existe. Donc on peut pas raconter cette histoire à notre manière. Bon, enfin, c'est difficile de raconter cette histoire avec la notre manière, mais en même temps, il faut respecter ce qui on sonorise avec la musique. Donc, le travail avec le cinéma, c'est très mystérieux et c'est très intéressant pour moi parce que j'écris parfois pour le cinéma et j'aime beaucoup ça. Et après, j'utilise cette musique beaucoup des années après pour moi-même. Donc, c'est comme si d'abord, cette musique, c'est un costume exactement pour cet personnage. Et après beaucoup des années, j'arrive finalement à libérer les personnages et les costumes avec pour aller vers d'autres choses. Quand je travaille pour le théâtre, pour la danse, souvent je travaille tout seul avec ma trompette, mon bugle, mes machines électroniques. Et donc là-bas, c'est totalement différent parce que c'est moi qui j'impose un peu une idée des musiques. Il y a des ambiances, il y a des répétitions de sons, il y a des harmonizers qui rentrent. Donc là-bas, c'est plutôt moi qui me confronte avec la voix, avec une histoire, avec un bouquin, avec une poésie, etc., etc. Donc pour moi, le cinéma, c'est une chose, et le reste, c'est autre chose encore différente. Parce que en plus, quand je travaille avec les théâtres, normalement, c'est des readings, ce n'est pas vraiment des pièces de théâtre classiques. Donc, il y a une musique qui, tous les soirs, ça peut être complètement différente parce qu'on est deux sur scène, on est trois. C'est moi avec un acteur ou moi avec une actrice. Et si moi, je joue quelque chose, elle ou lui, ils sont obligés de déclamer les choses par rapport à ce que moi, j'ai joué et vice-versa. Donc, c'est comme un concert. Alors, il y a une attitude avec la création qui est plutôt live, c'est comme être sur scène. Par contre, le travail pour les films, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et ça donne beaucoup des émotions. Parce que, en fait, quand on travaille pour les films, on écrit des choses et après, on ne sait jamais ce que ça se passe quand on va mettre ça sur les images. Parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe pas. Peut-être parce que moi, je ne suis pas un vrai compositeur de films, et donc je n'ai pas la technique. S'il y a une technique, je me demande s'il y a une technique pour écrire pour le cinéma. Je sais qu'Ennio Morricone, il a fait pour beaucoup de temps un stage à l'Accademia Chigiana de Siena, dédié au rapport entre la composition et les images du film. J'imagine que ça a bien marché parce que c'était Ennio Morricone, mais bon, il y a un exemple très simple. Une fois, j'ai composé la musique pour un film italien qui s'appelle Il più crudele dei giorni. C'est l'histoire d'une femme journaliste italienne qui était tuée à Mogadiscio. Il est passé aussi en France. Et donc, le metteur en scène, il était en train de tourner au Maroc. Et chaque semaine, il m'envoyait les choses montées avec de la musique pas originale, juste pour me dire avec le son un peu l'idée qu'il lui avait dans la tête. Donc il m'avait envoyé des images de la journaliste qui rentre à l'Italie avec un avion de l'État italien, etc. Et donc c'était une scène très très forte. Donc il y avait son père, sa mère, blablabla. Et donc il avait posé le Stabat Mater de Pergolesi. Et voilà. Et donc moi j'ai composé après un requiem, un peu sous la même idée. Bon, on est allé à monter le requiem sur les mêmes parties du film. Il marchait pas du tout. Donc à la fin, là-bas, silence total, et le requiem, il était monté ailleurs, dans une autre partie du film qui racontait d'autres choses. Donc, les mystères du rapport entre les sons, la musique et les images, c'est magnifique parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut passer. Thank you.
êtes cinéphile, il y a des associations comme ça entre metteurs en scène et compositeurs qui vous...
Bah oui, oui, bien sûr, il faut... Là-bas aussi, moi, j'ai travaillé... j'ai 2-3 metteurs en scène avec lesquels je travaille très bien, parce qu'ils sont d'abord des amateurs de jazz et des amateurs de ma musique. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi moi-même. Et donc là-bas, c'est facile, parce qu'ils aiment tellement ma musique que moi, je peux proposer ma musique, une idée de la musique, et eux, ils peuvent dire oui, non, mais en général, c'est oui. C'est confiance totale. Donc après, on essaie de monter le film, souvent, par rapport à ce que moi, j'ai joué. J'ai travaillé, par exemple, avec Nanni Moretti, et c'était un désastre. C'était très compliqué. C'était très, très difficile. On ne s'est pas trouvé. Du tout. Donc voilà, ça dépend. Je pense que ça dépend toujours de la relation entre le metteur en scène et les musiciens.
Il y a vous avez joué avec un nombre de musiciens hallucinants. Il y a des musiciens avec lesquels vous n'avez jamais joué et vous aimeriez ?
Trop vivants.
Je ne vais pas citer les morts, hein, parce que les morts, il y en a encore plus.
Non, il y a trop des musiciens.
Quelques-uns comme ça qui vous viennent à l'esprit vraiment, qui seraient des rencontres,
J'ai un rêve dans ma vie, ça veut dire de jouer une fois avec Tom Waits, qui n'a rien à voir avec le jazz, mais quand même. La chose que j'aimerais bien, c'est pas les musiciens de jazz. Oui, bien sûr, j'aimerais bien jouer avec Keith Jarrett, c'est évident. Mais voilà, mais mon rêve, c'est de jouer avec des mecs comme Caetano Veloso, João Gilberto, Tom Waits. Je me rends compte maintenant qu'ils ne sont pas des musiciens de jazz. Donc c'est encore une fois l'idée du jazz.
Donc des voix, en fait, finalement.
Souvent des voix, parce que je pense que la trompette, c'est une voix, une vraie voix. Et jouer avec des voix, c'est très difficile. Parce qu'il y a la prima donna qui est la voix. Et quand je joue derrière quelqu'un qui chante, je me rends compte que je peux voler l'espace à la voix, à la vraie voix. Et donc c'est très difficile. Ça, c'est une belle école pour essayer de jouer moins. Parce que quand on joue avec des voix, on est obligé vraiment d'être très... pas derrière, mais de choisir la phrase correcte au bon moment. Parce que sinon, on risque de faire un petit crèche avec la voix. Donc, il y a beaucoup de musiciens avec lesquels j'aimerais bien jouer. Mais à la fin, je suis un peu fataliste. Ça veut dire, je pense qu'on ne peut pas décider ça, oui, ça, non, ça, ça, ça. Mais parce que je me rends compte que tous les rencontres de 30 ans sont été un peu par hasard. Bon, avec Hurricane, avec Boyan Z, avec beaucoup de musiciens. C'est des rencontres dans les backstage pendant un festival, manger ensemble dans les catering d'un théâtre, parler comme ça, et s'il y a quelque chose qui se passe, on s'est dit, peut-être on s'envoie un petit mail, peut-être on peut jouer ensemble un jour. Et c'est comme ça que tout en commence.
Et vous avez peur que s'il y a un rendez-vous prévu avec Tom Waits, tel jour à telle heure, pendant un quart d'heure, que ça puisse peut-être pas marcher et que...
Ah non, avec lui, j'accepterai très bien un rendez-vous précis dans les prochains 10 ans.
Ce genre de choses. Vous avez des projets par rapport à votre label, des choses qui sortiront ensuite?
Oui, il y a déjà un parcours qui est bien signé pour l'année prochaine. Donc il y a un troisième titre qui sort, on parle de l'Italie parce qu'ici avec Bonsai Music tous les titres sortent après 2-3 mois plus ou moins. Donc le 9 novembre il y a un troisième titre qui sort qui s'appelle Ethos. C'est un CD avec un quatuor de cordes qui s'appelle Alborada avec beaucoup des invités. C'est Rita Marco Tulli au piano, Maria Pia De Vito à la voix, Daniele Di Bonaventura au bandoneon. Il y a des DJ. C'est un disque où on joue de la musique originale, on joue aussi Michael Nyman, Carl Jenkins, on joue Federico Monpo, une chanson traditionnelle sarde, etc. Est-ce que c'est du jazz? Je ne sais pas. Sinon, l'année prochaine, on va produire pour l'instant 4 nouveaux CD. On en commence avec un trio, avec un guitariste qui s'appelle Bebo Ferra, qui joue dans mon quartet Devil. Et c'est un disque en trio avec batterie et organe. Et c'est un disque très, très rock, très binaire,
Power Trio.
Avec des sons basses. Après, on va produire un disque d'une magnifique trompettiste jeune qui s'appelle Luca Aquino, qui a déjà fait deux disques pour Universal à l'Italie. Un pianiste très jeune de Sicile qui s'appelle Dino Rubino. Et on va au mois de mai enregistrer un disque à moi, à nous, bon, avec Omar Sosa, le pianiste cubain, et qui ça va sortir peut-être à la fin de l'année. Donc je vais produire pas trop de titres, mais l'idée,
bien choisir,
c'est, oui, et surtout après, bon, c'est pas simplement faire un disque. Il faut suivre un peu comme une petite fleur qui naisse. Donc l'artiste jeune, il faut la mêler un peu avec la main vers quelque chose. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aussi faire, parce qu'en fait aujourd'hui il y a trop de disques, n'importe qui peut faire un disque, mais c'est pas ça la chose. La chose, c'est de faire un disque. Le disque, c'est normalement, avant, les disques c'était un point d'arrivage. Aujourd'hui, les disques c'est le point de départ, mais souvent ça reste comme ça. Je pense par contre que les disques, il faut qu'ils soient le point de départ, mais pour aller vers une direction précise. Et ça, c'est pas tout à fait facile en fait.
Dans tout ce, pareil, dans tout ce flow, donc de toutes vos casquettes, directeur artistique de festival, patron, directeur de label, musicien, avec. Est-ce qu'il y a des moments où vous retrouvez dans des. Enfin, c'est un peu la page blanche de l'écrivain, où malgré toutes ces choses-là, vous avez envie d'appuyer sur pause et de, je sais pas, de vous ressourcer, de faire une pause, ou non, jamais finalement,
oui,
c'est
oui,
inconcevable.
Oui, oui, mais ça, sauf que ça arrive, et la pause, c'est 2 jours, 3 jours maximum, parce qu'après, je m'ennuie.
Non, vous parce partez que dans la montagne.
Voilà. Oui et non, parce que je pense que quand on aime quelque chose, ça ne fatigue pas. Ça veut dire l'idée de produire.
Ce n'est pas sur un aspect de fatigue, ouais. Je suis fatigué, je vais prendre des vacances. Ah. Plus c'était cette intensité de création, de musicalité, de réfléchir sur son propre art, plus que de la fatigue de vacances, vraiment. Plus.
Non, parce que c'est la chose qui ça m'intéresse. Plus de tout, c'est l'idée de créer des choses. Ça veut dire l'idée de faire une maison. Il n'y a pas une maison et tout d'un coup, il y a quelque chose. La label, c'est la même chose. Le programme du festival, une partition musicale. La chose qui est magnifique, c'est d'avoir rien et tout d'un coup, il y a une chose, il y a une idée qui nous amène vers. Donc, c'est pas fatigant, c'est très créatif, c'est très. Bon, il y a des moments où on n'a pas des idées. Il y a des moments où on est un peu vide, quoi, mais ça arrive, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de composer un programme pour un festival ou monter la label plutôt que. Parfois, je me trouve devant la plage blanche avec les pianos, la trompette, pour amuser des films. Ça se passe dans 15 jours. Et pour 3 jours, j'arrive. Bon, je peux composer des choses, mais après, je jette tout ça dans la poubelle. Ça arrive. Mais ça fait partie de tout ça, je pense. Moi, je n'ai pas vraiment un système de production. Bon, je sais qu'il y a des compositeurs. Stockhausen, tous les jours, il composait entre, je sais pas, 9h à 12h, et après des 3h de l'après-midi à 5h. Voilà, moi, je n'arrive pas. J'ai un rapport avec l'art et avec la créativité qui est beaucoup, pas tout à fait précis, plutôt spontané. Voilà. Et donc, voilà, c'est normal qu'il y a des moments où tout arrive à produire rien. Mais l'idée d'avoir du temps pour produire, l'idée de prendre un avion de Bologne à Paris, tu vois, 2 heures ce matin, je suis parti à 7h avec l'avion et j'ai travaillé pour 2 heures dans l'avion, parce que l'idée d'avoir du temps pour créer des choses, n'importe quelle chose, ça peut être une mélodie, ça peut être une idée pour les festivals, tout ça, ça fait partie de la musique. Je pense qu'être artiste aujourd'hui, c'est trop réductif de penser à l'artiste comme quelqu'un qui fait de l'art. Les musiciens, ils font de la musique. Les peintres, ils font des tableaux. Et les sculpteurs, ils font sa sculpture. Je pense qu'être artiste, ça signifie que c'est lié à beaucoup de choses. Parce que sinon, on peut pas se nourrir pour être du sol avec la page blanche de la composition, non? Parce que la musique, c'est un instrument pour dire ce qu'il y en a dedans. Et il faut si dedans on est vide, on n'a rien à dire. Donc il faut un peu partager les choses, il faut essayer, il faut se tromper, voilà, c'est plus de choses on peut toucher et plus de choses on peut raconter. Bon, c'est pas évidemment toujours comme ça, mais je pense qu'il passer beaucoup de temps sur la musique, c'est important, mais c'est bien aussi passer du temps dans les choses à côté, parce que sinon la musique, ça devient vraiment trop importante. Et si on déplace toute l'énergie sur la musique, qu'on se trouve sur scène et les concerts, ça marche pas, c'est un vrai désastre.
Merci d'avoir partagé toutes ces idées avec nous, Paulo Fresu. Je rappelle donc l'album double qui sort chez Tuk Music, qui s'appelle Songlines et Night and Blue. Merci, Paulo Fresu.
Merci à vous.
Cobas.com Rencontre par Marc Sisman.